Mesdames, Messieurs, la séance est ouverte. Nous sommes aujourd'hui réunis afin d'examiner une affaire qui concerne directement les fondements de la cité athénienne et de son régime politique. Platon a saisi la justice contre plusieurs artistes accusés d'avoir porté atteinte à la démocratie par leurs œuvres et leurs écrits. Dans leur poème, L'Apologie des barbares, ces artistes dénoncent le fonctionnement du régime athénien en termes particulièrement critiques, affirmant notamment « Le pouvoir au peuple, mais seule l'élite gouverne. Métèque, mes citoyens. La cité ne garantit pas tous les droits. Suffrage universel et les femmes. Il appartiendra à ce tribunal de déterminer si ces critiques menacent la démocratie athénienne ou si elles participent, au contraire, à une réflexion légitime sur la justice et l'égalité au sein de la cité. Le tribunal donne maintenant la parole à Platon afin qu'il expose les raisons de cette accusation.
Merci, madame la présidente. Eh bien, je vais vous dire que je suis pas content. Pas content du tout. J'étais dans la rue mardi dernier et passant dans l'agora, qu'entends-je ? Quis-je ? Des ignomies à faire saigner les oreilles, des blabterés par les pseudo-artistes que voilà, que je pointe là. Vous voyez pas, mais je pointe.
Confirmez-vous ces dires, cher client.
Eh bien, nous étions en train de nous produire sur l'agora, et tout d'un coup, il y a un vieil homme qui s'est avéré être Platon, qui nous a interpellés, ailés de manière virulente et sans vergogne. Il nous a traînés au commissarius, et on a passé la nuit en garde à vue. C'est honteux!
Vous ne trouvez pas ça excessif, incriminer des jeunes gens sur la place publique qui ne font que canter des vers, alors qu'à l'autre bout de l'agora, on peut apercevoir Diogène s'adonner à son activité quelque peu discutable?
S'il vous permettez, je ne laisserai pas mon client répondre à ses arguments. Auquel cas, ce procès pourrait se retourner contre lui. Je vais donc commencer en vous posant une simple question. Ne faut-il pas faire de petits sacrifices pour le bien de la cité ? En effet, vous connaissez le rôle des passions dans la manipulation et la subjectivité. Au final, peut-être que ce que faisait Diogène n'est que de se délester de ses passions afin d'être totalement objectif et de produire des écrits clairs. Et puis, qu'est-ce qu'un philosophe aux pratiques peu orthodoxes quand certains individus, dans des recoins sombres de notre cité, ont les mêmes pratiques sans aucune démarche philosophique derrière ?
En effet, hein, contrairement à Diogène, ce confrère respectable et à pensée noble. Vous, les artistes, vous n'êtes que des simples illusionnistes. Oui, vous, qui initiez des idées dangereuses à la jeunesse athénienne. Le monde se porterait mieux sans vous.
Il semblerait, Platon, que votre argumentation ne soit pas objective et dénuée d'affect. En effet, dois-je rappeler que votre grande, magnifique carrière de poète est malencontreusement tombée à l'eau ? Quel dommage. Cela n'influencerait-il pas votre haine soudaine envers les artistes ?
Alors là, certainement pas. Il est de mon devoir en tant que philosophe d'être neutre dans mes jugements. De plus, mon expérience dans ce domaine m'a permis simplement de voir le revers de la chose et de me rendre compte du tort d'être artiste.
En tant que deuxième avocat de la partie civile, permettez-vous d'intervenir maintenant. C'est déjà une calomnie d'affirmer que Platon s'est dirigé vers la philosophie par défaut, ayant échoué dans la poésie. Intéressons-nous au parcours de notre Platon qui est ce qui est nécessaire. À l'âge de 20 ans, notre client rencontre Socrate, un philosophe déjà de grande renommée, et qui influencera l'ensemble de son parcours par la suite. Il abandonne alors subitement ses ambitions littéraires pour se consacrer à plein temps à l'activité de la philosophie et se consacre à l'exercice de la sagesse tout en restant dans la démarche de recherche de la vérité. C'est ce que son maître appelait la maïeutique. Une figure importante peut ainsi nous permettre l'accès à la voie de la vérité, et c'est ce qu'a compris Platon très jeune. Alors non, il n'a pas raté sa carrière de poète, mais l'a délaissée. Par choix, lorsqu'il a compris ses dérives. C'est un acte de courage et de mesure dont il a fait preuve. Et, à sa manière, il est nécessaire qu'une prise de conscience, par le biais de personnes extérieures, place ces artistes sur la voie de l'authenticité. C'est l'objet même de ce procès.
Certes, avocat de la partie civile. Mais, Platon, vous vous revendiquez philosophe. Mais qu'est-ce qu'un philosophe ?
Alors, avant de répondre à cette question, qu'est-ce qu'un artiste ?
Alors, selon moi, un artiste est une personne qui remet en question les normes et qui questionne son public à travers ses œuvres. Ce n'est donc pas si éloigné d'un travail de philosophe.
Ce qui veut dire, finalement, mon client fait mieux votre travail que vous. Vous, le philosophe, avez devoir de questionner, de sans arrêt remettre en question les choses instaurées. Et aujourd'hui, vous reprochez à ces artistes exactement la même chose. N'est-ce pas paradoxal, Platon ?
Moi, si j'étais réactionnaire, je dirais que vous êtes un sophiste.
Et je dirais même plus, vous êtes un sophiste.
Regardez l'effet qu'ont ces perverses passions sur l'individu. La catharsis, c'est cette tendance qu'ont les artistes et les sophistes à exprimer leurs passions dévastatrices, dans notre cas, et à les répandre dans la population. Autrement dit, c'est une méthode bien connue, mais que trop peu prise en compte par ceux qui n'y sont pas familiarisés, et qui, par son fait, fait naître en le spectateur le même trouble qu'il est aisé pour l'artiste de rattacher à une cause. Par la force de ses passions, l'artiste manipule son auditoire et peut, à son gré, inciter au trouble et au désordre public. C'est le cas des accusés ici présents. Et c'est en cela, je parle d'une perversion mûrement conscientisée, qu'il s'agit d'une faute grave et lourdement condamnable.
Ne vous éloignez pas du sujet. Les revendications de mes clients sont légitimes. Faisons un peu d'étymologie. Démocratie, a priori la désignation du régime dans lequel nous vivons. Démo, c'est le peuple. Et Kratos, c'est le pouvoir. Donc, le pouvoir au peuple. Qu'avez-vous à répondre à cela ?
En effet, le pouvoir au peuple est ce qui doit être notre régime politique. Cependant, le peuple entier n'est pas forcément apte à diriger. Entre les personnes pauvres en valeur et en raison, celles manipulatrices ou victimes, et celles ne connaissant simplement rien à la politique, le peuple peut être comparé à un enfant. Et donnerons-nous le pouvoir à des enfants ?
Votre réflexion est profondément élitiste.
Je me permets d'intervenir. Lorsque mon client a comparé notre cher peuple athénien à un enfant, ce n'est pas par volonté de le réduire à un être inférieur, ni même incapable, et laisser loin de nous les considérations paternalistes. Car Platon, s'il devait arborer une caractéristique d'un père, ce serait bien sûr l'amour invariable. En effet, je ne vous apprends rien lorsque je vous dis qu'il aime cette cité et ses habitants. Après tout, être philosophe consiste à se pencher sur tout un chacun, même le plus miséreux, pour réussir à le comprendre et ainsi faire progresser la cité tout entière. Et être professeur et faire preuve de pédagogie, n'est-ce pas se faire comprendre et réussir à toucher les esprits qui nous succéderont et prendront soin de la cité après nous ? De plus, je suis récemment allé voir la Pythie, et que m'a-t-elle dit ? Que dans le futur, les populations, s'élevant à plusieurs milliards d'individus, seront influencés par un avorton ayant raté une école d'art et ses amis les élites, et que ces êtres malfaisants auraient fait s'entretuer pas moins de 60 millions de personnes. Et tout ceci en leur faisant miroiter quelques promesses populistes basées sur l'accomplissement de leur passion. Nous accorderons donc le droit à notre aimé Platon de s'inquiéter pour sa population.
Oh le tunnel ! Non mais vous vous entendez parler ? À vous écouter, on dirait que vous rendez service au peuple en leur enlevant la charge d'avoir à réfléchir par eux-mêmes. Les métèques et les femmes sont aussi légitimes que les hommes bien nés pour gouverner.
Comment un métèque peut-il gouverner une cité, un peuple qu'il ne connaît ou ne comprend même pas ? C'est une absurdité qui met en péril un peuple et qui va de même dans le cas des femmes. Celles-ci ne sont manifestement pas pourvues des mêmes capacités que les hommes à exercer une activité politique. Et leur condition ne leur permet pas de supporter des charges à haute responsabilité. La preuve en est que ce sont les hommes qui sont à l'origine de l'initiative de l'organisation de la cité et qui ont permis dès les premières lois de Tracon et Solon il y a 300 ans la mise en place progressive d'un état de droit et de veiller à son bon fonctionnement.
Vos arguments sont poussiéreux et remontent à une ère révolue. Tous les membres du peuple, à partir du moment où ils sont contribuables et qu'ils payent leurs impôts, devraient avoir le droit de vote. Au hasard, les métèques, qui n'ont presque aucun droit, mais qui se retrouvent à payer des sommes importantes pour l'entretien de leur cité.
Seuls les hommes riches participent à la vie politique, car ils financent la cité. Et c'est le cas de notre aimé Platon, ici présent.
Ah bah oui, bah l'exemple. Quel homme apte à gouverner, alors qu'il s'offusque de deux simples artistes qui osent s'exprimer, qui osent philosopher. J'en ai trop entendu. Peut-on passer à la délibération ?
Bien. Après avoir entendu les arguments de Platon et ceux des artistes, le tribunal ne peut ignorer la pertinence des critiques formulées à l'encontre de la démocratie athénienne. Les artistes ont rappelé que le pouvoir prétend appartenir au peuple, alors que dans les faits, il en reste les mains d'une minorité. De plus, les exclusions de la cité, l'absence de droits pour certains et les limites d'un suffrage ne concernent pas tous les individus. À ce titre, le tribunal reconnaît que ces critiques mettent en avant de réelles contradictions au sein du régime démocratique. Cependant, le tribunal a également pris en considération les préoccupations de Platon, soucieux de préserver l'ordre, l'unité et la stabilité de la cité. En conséquence, le tribunal estime finalement que Platon avait raison de dénoncer ses discours. Les artistes seront donc exclus de la cité athénienne afin de préserver l'ordre démocratique.
Mais le juge est corrompu, mais quelle ignominie !
Vous êtes inadmissible.
Radio.
Slash.